RMC Intégral Tour.
Cette grande hutte est la demeure du chef incontesté du village, le redoutable
Christophe Cessieux.
Mais c'est moi qui dois être sur ce bouclier. Je suis le chef après tout.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les ans, ce début du mois de juillet pour vous faire vivre le Tour de France cycliste, l'un des plus grands événements sportifs au monde et un événement qui se déroule chaque année sur les routes de notre pays, enfin pas toujours uniquement sur les routes de notre pays puisque vous le savez, nous sommes aux Pays-Bas pour le grand départ de cette édition 2015 à Utrecht, à 50 km au sud d'Amsterdam. Utrecht, une véritable ville de vélo dont on va reparler dans un instant avec nos reporters. Toute la bande est là, ils sont en pleine forme, affûtés comme jamais. Ils sont en train de réviser leur dernière fiche. C'est le cas notamment de Luc Leblanc qui découvre à l'instant même la liste des partants pour le Tour de France. Il est au taquet. Ça va, Lucho?
Comment ça va?
Est-ce que tu connais tous les noms de tous les coureurs qui vont disputer?
Oui, je les ai perdus de vue depuis 18 ans que j'ai arrêté le vélo.
Mais déjà, Luc Leblanc est là. Ta musique n'a pas changé.
Je vais dire bonjour aux auditeurs et aux auditrices.
Oui, heureusement.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis bien content de vous réentendre. Enfin, pas de vous. Parce qu'ils vont nous poser des questions en fin de journée.
Exactement.
Et voilà, donc sur les routes du Tour. Et puis le petit truc gastronomique, la Luchomobile.
La Luchomobile, évidemment. On vous parlera des nouveautés tout à l'heure dans l'Intégral Tour avec Georges Quirino. Il y a pas mal de petites nouveautés. On va faire appel à vous, que ce soit évidemment au 32-16, vous en avez l'habitude, ou sur le hashtag RMC Live, Twitter évidemment. Vous allez participer cette année avec nous à l'Intégral Tour de France. Il est là, lui aussi, en pleine forme. Il connaît tous les coureurs depuis 1903. C'est notre druide à nous, Cyril Guimard. Bonjour,
oui,
mon druide.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Tour de France 2015 et non pas 1903.
Oui, non mais... Hein?
En fait, on peut saluer Maurice Garin.
Vous en êtes à combien de Tour de France, mon cher Cyril?
Eh bien, si je ne rate pas le départ demain, ça devrait être le 44e.
44e, ah oui.
Mais c'est normal, il est vieux.
Oui, non, d'accord, mais bon, même il y a des gens qui sont vieux qui n'ont pas fait autant de Tour de France que Cyril.
T'es sympa d'entrer, toi, hein. Tu me cherches, là.
Combien sur le vélo, Cyril, on le rappelle?
5.
5, ah ouais, donc...
Ma carrière s'est arrêtée de bonheur. Souvenez-vous, j'ai eu mes problèmes,
mes gros problèmes
de genoux et qui m'ont contraint d'abandonner cette belle carrière.
Alors, 5 sur le vélo, mais beaucoup en tant que directeur sportif, on vous le rappelle, évidemment, c'est l'homme qui a fait gagner Bernard Hinault, c'est l'homme qui a fait gagner Laurent Fignon, c'est l'homme qui aurait pu faire gagner Thierry Bourguignon s'il avait été un peu moins feignasse.
Attends, j'ai fait gagner le dernier Belge aussi. Hein.
Ah oui, Lucien Van Impe.
Bah oui, parce qu'il a gagné le Tour après Merckx. Bon. Et on cherche quelqu'un qui pourrait le gagner après Bernard Hinault aujourd'hui.
Ah oui, ça fait 30 ans. On va en parler évidemment, ce sera l'un des thèmes de l'Intégral Tour aujourd'hui. Je le disais, il n'a pas gagné le Tour de France, mais enfin, il en a disputé quelques-uns. C'est Thierry Bourguignon qui est avec nous et qui va être avec nous tout au long de ce Tour de France. Ça va, mon Titi, en pleine forme?
Eh oui, mais bonjour messieurs.
Salut mon Thierry, ça fait longtemps. Hein.
Fatigué, je sais pas, il fait très chaud là-haut ou quoi?
Ah, il fait bon, 34 degrés ce matin.
Si vous êtes endormi dès le départ, vous allez louper le départ, les gars.
Tout va bien, pour l'instant, on est bien.
Oh, Thierry, tu pourrais pas parler un peu plus fort? On t'entend pas très bien.
Ah oui,
ça a l'air d'aller mieux dimanche dernier, quand même, Thierry.
Si on m'entend pas.
On rappelle que dimanche, dans les grandes gueules du sport, il sortait d'un mariage et on avait du mal à entendre sa douce voix. Oui, là, tu m'as l'air bien, t'as bien récupéré quand même.
D'accord.
Forme.
Départ du Tour, si t'es pas bien.
T'as un bon docteur, j'espère.
Pardon?
Tu as un bon docteur?
Mais bien sûr. Comme tu avais un bon docteur.
Très bien, messieurs.
Et le druide, faudrait le débaptiser parce que le druide, c'est celui qui faisait la potion magique et aujourd'hui, dans le vélo, il n'y en a plus.
Non, mais nous, on fait toujours la potion magique parce que nous, on ne s'engage pas les contrôles antidopage.
Vous n'allez pas commencer.
On pense qu'on va essayer.
Mais c'est le terme qui me dérange.
Ah oui, mais bon, ça fait des années. Hein. On va pas
le druide, on l'accroche à
la tradition
au bout d'un moment.
Ouais, mais pour l'instant, on l'a avec nous, Cyril Guimard, Thierry Bourguignon et Luc Leblanc qui vont donc nous faire vivre ce Tour de France 2015. Ils ne seront pas les seuls puisque tous nos reporters RMC Sport sont au taquet, à commencer par Pierre Ictel qui est juste à mes côtés et qui a la pêche aux infos, qui a très chaud et qui a presque 40 degrés.
Salut Christophe, bonjour à tous.
Ça va Pierrick, ça se passe bien cet avant-départ?
Très bien, on s'installe, on prend
les
nos marques.
Conférences de presse cet après-midi qui se
poursuivent là en ce moment. Nairo Quintana, on a vu tout à l'heure Vincenzo Nibali très entouré et on verra notamment tout à l'heure Nasser Bouhanni qui nous donnera des nouvelles de sa santé. On sait que ça va mieux pour le sprinter de l'équipe Cofidis.
Oui, il a annoncé tout à l'heure qu'il prendrait le départ après sa grosse chute à l'arrivée des championnats de France. C'était dimanche dernier, donc Bouhanni sera là, peut-être pas parfaite santé.
95% de chance hier qu'il soit là, 100% aujourd'hui, il a dit qu'il serait là, donc voilà.
Ici à Utrecht, aux Pays-Bas, donc d'où sera donné demain le départ du 103e Tour de France. Et c'est pas la première fois, évidemment, que la grande boucle s'élance des Pays-Bas. Je crois même, Pierrick, que c'est le pays recordman en termes, derrière la France, évidemment, en termes de grand départ. Pourquoi cette passion pour la Hollande? Pourquoi on vient ici? Parce qu'il n'y a pas de montagne, c'est tout plat, c'est mieux pour la première semaine.
Et puis parce que c'est un pays traditionnel de vélo. On rappelle, le premier départ ici aux Pays-Bas, c'était en 1954, le dernier à Rotterdam en 2010. Et donc, ouais, comme tu l'as dit, c'est un record pour l'étranger, cette ville d'Utrecht, cette quatrième ville des Pays-Bas. Et c'est vrai que ici, il faut pas marcher la tête en l'air, hein, parce que dès que tu te retournes, tu te prends un vélo, parce qu'il y en a partout. Alors, ils sont garés partout, ils circulent partout, un petit peu partout dans cette ville. Et c'est vrai qu'il y a une véritable ferveur, il y a un engouement certain pour la grande compétition qu'on s'apprête à vivre ici, le départ du Tour de France, mais également pour le cyclisme en général. C'est une ville d'environ 320 000 habitants et on dit qu'ici, tout simplement, il y a 300 000 vélos. Les gens ont au moins un vélo ici, tous au moins un vélo, parfois même un deuxième, car on nous dit qu'il y a aussi des vols, hein, comme quoi il faut faire attention, même ici à Utrecht. D'ailleurs, quand on a demandé à Christian Prudhomme pourquoi il avait choisi cette ville, qui candidate depuis, on en parlera tout à l'heure, qui candidate depuis 13 ans déjà ici, on lui a demandé pourquoi il avait choisi cette ville d'Utrecht, pourquoi ASO partait ici sur ce Tour de France.
Une ambiance exceptionnelle pour le grand départ du Tour de France aux Pays-Bas, à Utrecht, sans surprise. Même si nous sommes évidemment ravis, mais il y a plein de monde. Les Pays-Bas, c'est le pays de la petite reine. Utrecht, c'est la ville des Pays-Bas où il y a le plus de gens à vélo. À titre d'exemple ou d'anecdote, lorsque je suis venu ici à moult reprises pour préparer le grand départ, les gens qui venaient me chercher venaient avec un vélo, m'attendaient, et on allait à bicyclette aux différents rendez-vous pour aller voir le maire, par exemple. C'est quelque chose qui n'arrive évidemment pas en France. Et en France, d'ailleurs, on trouverait peut-être ça incongru, alors que c'est tout à fait naturel ici. Ça préfigure peut-être, d'ailleurs, je l'espère, ce que sera l'avenir en France aussi.
Voilà, parce que évidemment, la Hollande est un exemple pour tous les mordus de vélo. Christian Prudhomme aimerait bien qu'on ait autant de vélos, qu'on circule autant à vélo dans les rues de Paris, pourquoi pas.
Il y en a beaucoup également parqués, puisque pour l'instant, pas très loin d'ici, hein, juste à côté du théâtre, il y a un parking de 4000 places pour les cyclistes. En construction actuellement, et il sera livré dans un peu plus d'un an maintenant, il y a un parking, un record mondial de, tout simplement, on pourra ranger plus de 12 000 vélos ici. Ici, dans ce parking, donc voilà, on en voit partout. Ça sent bon le vélo, ça sent bon le Tour de France. Et puis voilà, forcément, avec notre invité qui va pouvoir mieux nous en parler, justement, de cette ville d'Utrecht.
Exactement, c'est l'homme qui est à l'origine de la présence du Tour de France ici, dans sa ville d'Utrecht. Jeroen Wielaert qui est avec nous.
Jeroen Wielaert, oui.
C'est pas facile à dire. Hein, le...
Non.
Avec le néerlandais.
Oui, c'est bon, c'est
mais
bon.
D'ici quelques jours, on va y arriver. Ça va, Jeroen, tout se passe bien?
Oui, il fait beau, il fait chaud, qu'on vous le disait. C'est de coutume.
Non, c'est une coutume néerlandaise, comme ça, des 35 degrés, vous avez l'habitude.
C'est le temps que je connais du Tour, hein. Mais c'est le Tour dans ma ville. C'est, oui, je dois le croire. Ouais. Mais les gens d'Utrecht ne croyaient pas instantanément. C'est 5 janvier 2002 que un ami de moi, Jan Fokkens, et moi, on su que le Giro d'Italie partirait de Groningen, au nord des Pays-Bas. Et ce jour, dans une pub utrechtaine, j'ai dit, si le Giro d'Italie peut sortir de Groningen, Utrecht doit avoir le Tour de France. Voilà. C'était pas facile.
Ah ben j'imagine, oui, parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de villes dans Europe.
Mais hein, aussi qui... de concurrence ici, au
même
Pays-Bas,
au sein même
Rotterdam,
des Pays-Bas.
Ouais. Rotterdam,
Il y a eu deux gros coups durs, hein, si je me trompe pas. Il y a eu cette concurrence de Rotterdam en 2010. Il y a les aveux également d'Armstrong en 2012 et le retrait de Rabobank qui fait qu'il y a également une partie du plan de financement qui a été amputée et qu'il a fallu, même si vous avez eu le soutien derrière de la ville, des collectivités qui ont soutenu le projet, il a fallu trouver de nouveaux investisseurs.
Oui, et ils n'ont pas hésité d'entrer dans le cirque. Mm. Et c'est drôle pour le Rabobank parce que...
On est au pied de la tour Rabobank, qui a abandonné le vélo qui est parti avec la queue entre les jambes.
Ils ne vont pas partir plus. C'est incroyable, c'est comme ça, mais c'est un exemple que Utrecht a plus de supporters, de sponsors que ce Rabobank fameux.
Alors, le bourgmestre, le maire Alain de Vos, a eu beaucoup de travail, c'est 2013, après les affaires Armstrong et Bogert.
Oui.
Pour trouver une solution, mais il l'a trouvé.
Ça coûte cher d'accueillir et de faire partir le Tour de France d'une ville. C'est quoi? C'est 15 millions d'euros, c'est ça environ pour le budget pour un grand départ du Tour de France.
Rotterdam a payé 2 500 pour juste les droits. Et ça grandit. Et pour Utrecht, c'était 4 000 euros.
4 000, comment ça, 4 000 euros? Non, c'est beaucoup plus cher que ça.
Oui, c'est beaucoup, mais le total de budget est
15 millions d'euros, effectivement.
Millions.
Là, je veux dire, moi, j'organise le départ du Tour dans mon village. Parce que à 4 000 euros, c'est pas mal, on peut même partir de
autre chose. 4 millions d'euros. Ah, ben, à Saint-Hervier-la-Pierre, chez moi.
15 millions d'euros. Pour le grand départ, c'est 15 millions d'euros.
Oui, mais la ville d'Utrecht a donné 4 millions. C'est ça?
Oui, c'est pour les droits.
En Limousin, ils peuvent le faire, ça. Hein, 4 millions, c'est pas grand-chose.
Ouais. Évidemment, ils ont besoin de quelqu'un qui va chercher
sponsor. Mais on n'a jamais fait de grand départ en Limousin, donc c'est peut-être le moment de faire une demande.
Un jour ou l'autre.
Tu habites Nice, hein?
Oui, je suis originaire de Nice.
C'est possible à Nice aussi.
Ah oui, on a eu une étape du Tour il y a 2 ans qui était magnifique. Irène, juste un petit mot sur la ferveur des Pays-Bas concernant le vélo. C'est dingue. Ici, on n'a jamais vu autant de vélos dans notre vie qu'à Utrecht. C'est dingue, tout le monde roule à vélo, il y a quasiment plus de voitures ici. Et il faut dire que les infrastructures aussi sont faites pour faciliter les vélos, il y a des pistes cyclables partout. C'est une véritable religion le vélo en Hollande.
Plus de vélos que de gens ici à Utrecht. Et on les vole tout le temps. Moi, j'habite Utrecht plus de 30 ans et on m'a volé 35 vélos, je crois. mais c'est pour rigoler. C'est la passion de la petite reine.
Ouais. C'est parce que vous n'avez pas de montagne aussi, vous êtes passionné par le vélo, non? C'est pour ça?
Non.
Parce que s'il y avait des montagnes,
on nous a nommé la Chinois d'Europe. c'est un moyen assez facile. C'est pas trop cher. Et les étudiants, nous en avons 30 000 étudiants ici. Et ça donne aussi pour un homme comme Christian Prudhomme. Ça donne la ville d'Utrecht cette ambiance de jeunesse. C'est un exemple d'énergie pour lui, d'envie. Et avec tout ces bicyclettes, l'image est parfaite.
Ouais. Image parfaite, temps parfait, un plateau exceptionnel, un parcours dont on va parler qui est aussi magnifique. Juste un petit mot sur les étapes qui vont se dérouler aux Pays-Bas, notamment demain le contre-la-montre évidemment, et puis dimanche cette étape qui va se terminer quasiment en pleine mer sur la digue de Zeeland. C'est un endroit assez représentatif des Pays-Bas, hein, important pour les Pays-Bas.
Oui,
hein.
mais l'initiative de Zeeland est plus longue qu'Utrecht. Ils ont commencé, je crois, l'an 2000. C'était presque 17 ans leur ambition. L'atmosphère est quelque chose de différent. Utrecht me semble une ville cosmopolite qui n'était pas. C'est assez tranquille, sauf le bruit des étudiants. Mais maintenant, avec le tour, il me semble que ma ville se grandit en facteur 2. Et tout le monde est très fier.
Ouais, j'imagine. J'imagine. Merci beaucoup, Irène Willaert, d'être venu dans ce petit camion. Vous étiez venu l'année dernière nous parler d'Utrecht, justement. Nous appâter, nous dire, allez, vous allez voir, vous allez vous régaler aux Pays-Bas l'année prochaine pour le départ.
Je vais vous parler des grands départs de 2025.
2025, d'accord. Ça partira d'où en 2025, si vous le savez. Merci, Irène, en tous les cas. Donc, superbe grand départ demain de ce Tour de France. Merci beaucoup. Pierrick, tu avais des choses à ajouter sur les Pays-Bas,
tout
départ.
Tout est
très bien. Remercier Irène et on va continuer évidemment l'intégrale Tour de France dans un instant. Toujours en direct de notre petit camion RMC où il fait toujours aussi bon, une petite quarantaine de degrés pour commencer le Tour de France. Eh bien, ça va nous faire du bien. Dans un instant, nous allons parler du parcours du Tour parce qu'il va bien falloir un jour quand même partir d'Utrecht en direction du sud, en direction de l'ouest. On en parle dans un instant. Parcours magnifique que nous ont mitonné les organisateurs du Tour, on en parle dans un instant. À tout de suite.
RMC, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
L'intégral tour, et oui, c'est parti, c'est reparti pour un tour avec le grand départ qui sera donné, on vous vient de vous le dire, demain d'Utrecht aux Pays-Bas pour trois semaines en direction de l'ouest, direction du sud, avec une grande première ligne droite qui va nous amener jusqu'en Bretagne. Et la deuxième partie du tour, on va en parler dans un instant, de Pau jusqu'à l'Alpe d'Huez, ensuite un petit tour en avion et on arrivera à Paris, mais c'est pas tout de suite. Paris, nous sommes avec Cyril Guimard, le druide qui est en pleine forme, avec Luc Leblanc et avec Thierry Bourguignon, et puis l'autre voix de l'intégral tour qui vous régale depuis des années est avec nous. Elle n'a pas changé la voix, elle est toujours impeccable. Bonjour monsieur Adam.
Elle est pas rouillée, non, pas encore, ça va venir probablement avec quelques soirées en compagnie de Luc, ça devrait dérailler très très vite, mais pour l'instant on est encore bon.
Il va commencer la quarantaine le coco.
Non, loin de là. Loin s'en faut.
Dans deux jours, je sais pas combien.
Mais c'est vrai qu'il fête son anniversaire sur le tour, ne pas l'oublier. Oui. Si vous avez des infos. Parce qu'il refuse de nous donner la date à chaque fois. Si vous connaissez Frédéric Adam, n'hésitez pas à venir nous donner sa date de naissance. Ça nous permettra de lui
envoyer. Envoyez-nous des cadeaux à nous.
Parce qu'il est déjà assez riche comme ça. Alors, messieurs, le grand départ aux Pays-Bas. On fera un petit débat autour de ce départ à répétition. Il faut bien le dire, Fred, quand même, à l'étranger. C'est la deuxième année consécutive. Je croyais que la règle, c'était une année sur deux qu'on devait faire un grand départ en France, un grand départ à l'étranger. Mais là, ça y est, maintenant, c'est la folie des grandeurs.
On ne parle plus que
des Pays-Bas, d'Angleterre, dans des pays, il est vrai, qui sont passionnés de vélo, peut-être plus que nous.
Oui, c'est la sixième fois que les Pays-Bas accueillent le départ du Tour. C'est vrai que c'est la tendance du moment et quelque chose nous dit qu'elle ne s'inversera pas, cette tendance, parce que les intérêts commerciaux, la publicité faite dans les pays étrangers est telle avec un grand départ du Tour que l'organisateur ASO ne peut pas faire l'économie de ce genre de grand départ. Et pour tout dire, ça nous va bien. Ouais. Ça nous va bien. La Corse, c'était quelque chose de très très bien. Mais le Yorkshire et ici Utrecht, les Pays-Bas, c'est très très bon.
Très bien. Messieurs, votre avis justement sur ces départs à répétition à l'étranger. Je sais que tu veux le grand départ dans le Limousin, mais pour l'instant tu l'as pas.
C'est trop central.
On est loin. Mais c'est une bonne chose parce que ça permet aux Hollandais de pouvoir suivre le Tour de France, ceux qui connaissent pas la France, à partir du moment où le Tour de France comme l'année dernière en Angleterre, ça permet aux Anglais de pouvoir après suivre le Tour jusqu'au bout et de pouvoir voir les belles régions de notre pays. Mais ceci dit, en tant que coureur, moi quand j'étais coureur, j'avais une sainte horreur de faire des départs du Tour de France à l'étranger. On l'avait fait en Espagne, on l'avait fait en Angleterre,
en
Irlande.
Les coureurs n'aiment pas ça.
Non, c'est pas chez nous quoi. Et puis on n'a pas la même motivation.
C'est pas en Limousin. Quoi.
On n'a pas la même motivation, si tu veux, en début de tour.
Parce que les gens ne te reconnaissent pas.
On n'est pas concentré pareil. Oui, mais moi, j'avais pas besoin de ça. Non, on me reconnaissait quand même. Mis à part ça, sans trop rigoler, c'était pas mon truc. Et puis, je pense que Thierry, mon ami Thierry, que je salue, va nous dire la même chose.
Ah, je sais pas. On
est quand même parfois d'accord.
Les départs du tour à l'étranger, tu ne mets pas quand tu étais coureur. Est-ce que tu aimes un peu plus depuis que tu es maintenant consultant vedette sur RMC?
J'étais un peu comme Lucho. Quand on prend le départ du Tour de France à l'étranger, on n'est pas encore sur le Tour de France. C'est drôle parce que, bon, certes, il y a un petit peu de Français qui viennent voir le départ, mais on n'est pas dans notre petit monde français. Et le Tour de France avec un départ étranger, c'est simplement un problème économique. Ça, c'est clair. C'est super sympa.
Oui, pour développer la marque Tour de France dans le monde.
Très sympa parce que il y a énormément de monde. Comme on vient rarement dans ces pays, et ben quand le Tour de France se déplace dans ces pays, franchement, il y a toute la population autour du Tour de France. On a vraiment, je pense que en Hollande, j'ai fait des départs en Hollande du Tour de France, c'était impressionnant. La
ferveur
humaine. Il y avait 3, 4, 5 même rangées de personnes au bord des routes. D'ailleurs, moi, il y a une glacière qui a traversé, du moins. Et les gens se sont écartés.
La glacière.
Non, c'est pas la glacière qui s'est écartée. Et encore, c'était une glacière. Ça aurait pu être une personne âgée sur un siège, ou alors un enfant sur une poussette.
Ou un frigo.
Un frigo, c'est plus mal. Une petite glacière. Je me suis mis dans l'ambiance hollandaise, parce que quand les gens se sont écartés complètement, boum, on a percuté la glacière, ça fait ouais. Bonne gamelle dès le premier premier jour, c'est super.
Ça peut arriver.
C'est pas spécial à l'étranger.
Ça peut arriver en France aussi. Certes, il y a peut-être un peu moins de monde sur l'écran départ quand même en France.
Cyril, tu n'as pas donné ton avis, toi.
Non, mais
toi, tu as 44 tours. T'en as fait quelques-uns des départs à l'étranger.
J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les avis de nos anciens coureurs professionnels, que je trouve un peu rétrograde quand même.
Ça y est, ça commence.
Moi aussi, c'est la vision.
Un peu réac.
C'est une vision un peu rétrograde.
C'est la vieille école, Cyril.
La vieille école, les gens qui on est bien chez nous, dans notre. Mais ils ont qu'à faire que, ils avaient qu'à faire que les courses de clocher.
Mon pauvre Cyril, tu dis ça maintenant. Mais
non, je l'ai toujours dit, et je pourrais même vous donner des exemples, parce que pour moi, le Tour de France fait partie du patrimoine français, ne l'oublions pas, c'est l'événement qui est le plus scintillant des événements que nous produisons en France, et le fait qu'il aille à l'étranger, c'est une formidable promotion de la France, des Français et du cyclisme. Il faut continuer à aller à l'étranger. Mais il faut continuer à aller à l'étranger. Quand on voit la ferveur,
laissez parler le druide.
Je vous ai pas coupé, je vous remarquerai.
C'est vrai.
Quand on voit la ferveur des Anglais lorsque les deux dernières fois où nous sommes partis d'Angleterre, c'est absolument extraordinaire.
On roule à gauche.
C'est absolument extraordinaire. Et puis n'oublions pas que nous, vous raisonnez comme des petits Français franchouillards. Faut quand même le dire.
Le
peloton n'est pas fait que de coureurs français, et le Tour de France n'est pas gagné que par des coureurs français. La preuve.
Bah, écoute,
dans les trois dernières années, ce sont quand même deux Anglais qui l'ont
remporté. Le Tour de Belgique, il reste en Belgique. Excuse-moi, mais
non, il passe aussi en France, le Tour de Belgique.
Mais qui passe? Attends, Cyril, là-dessus, je suis pas tout à fait d'accord. On part de l'étranger, le Tour de France. Alors que qu'on aille faire un petit tour à l'étranger, je suis complètement d'accord.
C'est bien parce que tu sais que la première fois que le tour est passé
mais
à l'étranger.
Maintenant, le grand départ du Tour de France, c'est comme l'arrivée à l'étranger.
Est-ce que tu sais en quelle année c'était?
Pourquoi pas une arrivée à l'étranger?
Non, la première fois que le Tour de France est passé à l'étranger, est-ce que tu sais en quelle année c'était?
Il n'était pas né.
C'était en 1906 et c'était à Metz qui n'était pas français à l'époque. Oui. Et qui était sous tutelle allemande.
Le passage à l'étranger, c'est à la rigueur, c'est...
Oui, mais c'est difficile de passer à l'étranger, Thierry, en plein milieu du Tour de France, à part faire un petit détour en Italie.
Si, on l'a fait
en Suisse, on l'a fait régulièrement.
On lèche les frontières belges ou suisses ou italiennes, on peut aller faire une incursion.
C'est difficile d'aller faire une incursion.
C'est dit en termes de business, parce qu'il y a quand même du business derrière, il n'y a pas que le côté « vive la France ». Un grand départ à l'étranger,
c'est plus cher ou pas?
5 jours sur le site. C'est pas le même prix non plus. La preuve, on a eu les 15 millions d'euros.
Mais en France,
c'est toute la caravane du Tour de France, c'est tous les médias qui sont là à partir du lundi, du mardi au plus tard. Tout le monde est arrivé là. Ça a une résonance absolument extraordinaire. Et puis ça permet aux Français de savoir qu'il y a aussi d'autres pays à l'étranger. Oui, d'autres pays. Et je le dis pas par hasard, parce que nous en France, on se prend peut-être aussi un peu trop pour le nombril du monde.
Mais non, absolument pas. C'est comme le Giro de départ de l'étranger. Moi, je trouve ça un peu
comme le Tour d'Espagne.
J'aime pas trop. C'est tout.
Oui, mais parlant du Tour de France, on s'en fiche du Giro et de la Vuelta.
Messieurs, rassurez-vous, l'année prochaine, nous n'aurons pas ce débat, car le Tour de France s'élancera de la Manche, département de la Manche,
du Mont-Saint-Michel.
Exactement.
Dont on ne sait pas s'il est en Normandie ou en Bretagne.
Oui, mais en tout cas, on sait qu'il est en France, et c'est même un des monuments préférés des Français, un des monuments les plus visités au monde et évidemment les plus visités de France. Donc, ce débat, nous ne l'aurons pas l'année prochaine. Il faudra trouver d'autres idées de débat. Fred, on va parler du parcours de ce Tour de France. Parcours. Alors c'est vrai qu'habituellement le Tour de France dans les vieilles années réactionnaires, là où Thierry Bourguignon et Luc Leblanc marchaient sur les routes du Tour, c'était 15 jours de plaine ou 10 jours de plaine et ensuite on attaquait la montagne. Là c'est de la plaine, mais c'est pas de la plaine comme on avait l'habitude d'en connaître il y a quelques années quand même.
C'est pas de la plaine rasante, c'est pas de la plaine barbante.
C'est pas de la plaine de sieste.
On avait des copeaux de bois.
RMC Intégral Tour. Christophe Cessieux.
Super rasante.
Voilà, les copeaux de bois ont eu raison de l'aigner. On a des petits soucis techniques ici aux Pays-Bas, mais vous inquiétez pas, tout va rentrer.
Le rabot est passé sur les lignes.
Le rabot banque est passé. Fred, tu nous disais donc.
C'est très simple, ça fait 10 ans que le Tour de France ne s'est pas risqué à dessiner une première étape sans la moindre grande difficulté, sans le moindre massif montagneux. Mais il faut pas se tromper, cette première semaine ne sera pas toute dévolue aux sprinteurs. Demain, c'est bien sûr un contre-la-montre, 13 km, un peu moins de 14 même. Ce n'est pas un prologue et ce sera intéressant parce qu'il y aura peut-être déjà des écarts entre les favoris. Nul doute que les spécialistes comme Cancellara ou Dumoulin, Tom Dumoulin, le néerlandais, pas Samuel, le français qui ne sera pas là sur le tour, seront les favoris. Mais derrière, on aura du grand spectacle, même en première semaine, même si c'est dans le nord de la France et en direction de la Bretagne. Dimanche, on aura une arrivée qui sera hyper télégénique. On avait eu la Corse il y a quelques années. Là, dimanche, on aura une arrivée en pleine mer, sur les digues de la mer du Nord, en Zélande. Ensuite, il y aura, dès le lundi, une arrivée au sommet du Mire de Huy, le juge de paix de la Flèche Wallonne, la célèbre classique. Le surlendemain, toujours dans l'enchaînement, l'étape des pavés en direction de Cambrai, 7 secteurs pavés avec de la casse à prévoir chez les favoris. Pas sûr que les 4 fantastiques Contador, Quintana, Froome et Nibali soient encore dans le jeu dès le mardi soir de la première semaine. Ensuite, c'est vrai, on aura un petit enchaînement de 3 étapes pour les sprinteurs vers Amiens, Le Havre, Fougères, et puis après on est en Bretagne, arrivé à Mur de Bretagne, là où Floyd Landis avait devancé Alberto
Cadel Evans.
Pardon, oui. Evans et Landis, j'ai tendance à les confondre, mais oui, c'est Cadel Evans qui s'était imposé. Autant dire, loin d'être un sprinter et loin d'être un anonyme. Derrière, contre la montre par équipe, deuxième et dernier volet de l'exercice chronométré
ensuite,
sur le tour.
On range le chrono, on le ressort l'année prochaine.
Exactement, derrière, on fait 3 étapes dans les Pyrénées avec l'enchaînement Aspin-Tourmalet le deuxième jour, la Pierre Saint-Martin le premier. Ce sera la première fois que le tour arrivera au sommet de la Pierre Saint-Martin, le plateau de Bay le troisième jour des Pyrénées. Ensuite, on va vers Rodez et Mende, c'est de la moyenne montagne, ce sera accidenté. On bascule vers Valence, le couloir rodanien, et puis festival de la dernière semaine, feu d'artifice dans les Alpes avec Saint-Jean-de-Maurienne, la Toussuire, Pralou, et puis l'Alpe d'Huez à la veille de l'arrivée sur les Champs. C'est-à-dire qu'à 24 heures du circuit des Champs-Élysées, on sera toujours dans l'indécision qui remportera le 102e Tour de France. Si là on n'a pas tous les ingrédients d'un tour qui nous fait saliver, je n'y comprends plus rien.
Effectivement, on va débattre de ce parcours. C'est vrai qu'il est alléchant. C'est un des parcours les plus sexy de ces dernières années. C'est vrai qu'on est sorti quand même, hein, Cyril, il faut bien le dire, de cette tradition qui faisait qu'il fallait qu'on donne à manger à tout le monde sur le Tour de France, c'est-à-dire que il fallait quoi 6-7 étapes pour les sprinteurs, ensuite il fallait des étapes pour les grimpeurs, mais c'était un peu ronron, un peu plan-plan. Là, ça peut dynamiter quasiment tous les jours, hein.
Oui, je pense que c'est une très bonne chose. À une certaine époque, je pense que les organisateurs du Tour de France ont été un peu trop sensibles à certaines revendications où on dit c'est trop dur, c'est trop long, on voulait mettre des pavés, non, parce que ça va fausser la course, mettre de la montagne trop tôt, mais ça va décanter trop tôt. Donc aujourd'hui, les organisateurs ont pris leurs responsabilités. Le parcours, il est tel qu'il est, vous en ferez ce que vous voudrez, mais une chose est certaine, vous avez des champs de bataille, donc à vous de les utiliser. Et qu'il y a eu des pavés l'an dernier, qui a été une superbe étape, en plus il pleuvait, donc c'était extraordinaire.
Qui a été fatal à Chris Froome, puisqu'il
Chris Froome et à Contador, qui a aussi perdu beaucoup de temps ce jour-là. Donc je trouve que c'est très bien, et puis je pense que c'est que souhaitent les organisateurs du Tour de France, c'est que celui qui gagne soit bon contre la montre, soit bon en montagne, soit bon quand il y a du vent, et soit aussi bon sur les pavés, puisque ces types de routes que l'on rencontre sur l'ensemble du calendrier de l'année, et c'est ce genre de route et ce genre de course qui font la notoriété du sport cycliste, c'est les grands champions.
Très bien, nous allons continuer de débattre sur ce parcours dans un instant. On va accueillir aussi nos auditeurs qui sont au 32-16, Nicolas et Mickaël qui
qui nous attendent. On vous attend là aussi sur le hashtag RMC Live. Il y a pas mal de messages avec des gens qui sont contents de nous retrouver. Et nous aussi, on est contents de les retrouver. Et même certains qui nous donnent la date de naissance de Fred Adam. Non, c'est pas ça. Il est pas né en 73.
Loin de là. Non. Il sait pas.
Et puis Guillaume qui nous dit c'est parti pour 3 semaines de bonheur à deux roues. Ou Jerry qui nous dit le retour de l'intégral tour. Il y a que ça de vrai. Et Baptiste, quel plaisir de vous retrouver, la Dream Team Vélo. C'est parti pour 3 semaines ensoleillées avec vous. Bah, nous aussi, on est ravis de vous retrouver. On se retrouve d'ailleurs dans un instant pour parler de ce parcours. Et puis ensuite, jusqu'à 18h, on va parler des favoris, des Français, les 4 fantastiques qui vont nous faire vibrer pendant 3 semaines. À tout de suite.
RMC, Intégral Tour.
Est-ce que tu vois l'Arc de Triomphe?
Alors
Christophe Cessieux.
Eh bien, tu t'arrêteras quand tu le verras.
Et on ne voit pas encore l'Arc de Triomphe ni la Tour Eiffel de nous trouvons ici à Utrecht, lieu du grand départ du Tour de France demain après-midi avec le premier contre-la-montre individuel et le dernier de ce Tour de France, puisqu'on vous le rappelle, il n'y aura qu'un chrono individuel, il y aura aussi un chrono par équipe. Fred nous en parlait il y a quelques instants. Thierry Bourguignon est avec nous, Luc Leblanc, Cyril Guimard et vous également au 32-16. Tiens, Mickaël qui attend depuis un bon moment est avec nous. Il nous appelle de Reims ou de la Seine. Bonjour Mickaël.
Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Quel plaisir de vous entendre. Super.
Salut Mickaël. Hein. Le plaisir est partagé. Alors Mickaël,
ça sent
l'été parcours...
quand on vous entend.
ça sent les vacances, mais pas pour tout le monde. Je peux te le dire. Alors ce parcours, est-ce que toi tu es excité par ce parcours proposé par les organisateurs du Tour?
Depuis octobre dernier, oui, bien sûr. J'attends ça avec impatience d'ailleurs, ce Tour de France 2015. C'était au Palais des Congrès en octobre dernier. Je peux vous dire à quel point le parcours est génial. C'est que tous les gens ont fait « Oh !» quand ils voyaient à chaque étape. Il y a tellement de choses inédites. C'est tellement un parcours qui fait saliver, comme a dit. C'est formidable. C'est un parcours pour grimpeurs. Moi, je dis que Quintana ou Pinot ou même Contador a vraiment une chance de gagner le tour par rapport à Froome ou Nibali qui sont beaucoup plus, on va dire, des rouleurs. On va dire ça comme ça. Voilà. Mm-hmm. Je pense que, parce que il y a déjà qu'un seul chrono, c'est celui de demain. Ensuite, il y a un chrono par équipe et il est pas facile. Les Pyrénées, les Alpes. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer dans ce Tour de France. Il y a tellement d'endroits où tout peut se jouer. Il y a tellement de... Ouais, c'est... Ça fait saliver, quoi. Moi, j'attends ça avec impatience. Hein. Vivement demain que ça démarre. Hein. Vivement.
On a tous hâte, évidemment. Merci.
Et puis, comme l'an dernier, les Français, j'espère qu'ils vont être au rendez-vous. Et cette année, on a vraiment de bonnes chances. Vraiment.
Ouais, on parlera tout à l'heure évidemment des chances, oui. des principaux favoris, de tous les Français également. Merci Mickaël en tous les cas d'être venu au 32-16. On va prendre
Merci beaucoup.
Dans quelques instants. Merci Mickaël, j'espère que tu vas rester fidèle auditeur de l'Intégral Tour. Luc, ce parcours, toi aussi, tu es séduit par ce que nous ont concocté les organisateurs du Tour.
Oui, très 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 séduit. Oui, mais j'aurais voulu être à leur place aujourd'hui, sachant qu'il n'y a pas de contre-la-montre. Mais bon, je me débrouillais pas trop mal au contre-la-montre à l'époque. Mais ceci dit, le tour va être très très ouvert. Bon, il y a les principaux favoris, les 4 fantastiques, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais il y a les outsiders qui sont là derrière aussi. Il faudra pas les oublier, comme Pinot.
On parlera tout à l'heure des favoris.
Voilà. Si tu veux au niveau du parcours, il n'y a pas trop de relâche. Il n'y a pas trop de jours où on fait ça avec des contractions. Quand tu regardes entre les Pyrénées et les Alpes, tu as Rodeste, Amande, c'est pas quand même tout plein. Il n'y a pas trop de journées de transition. Et ces étapes-là, il faudra peut-être pas les oublier par rapport aux Alpes et aux Pyrénées. Parce que là, c'est dangereux aussi pour les coureurs. Il n'y aura pas de la récupération comme il pourrait l'avoir éventuellement en faisant des étapes de plat, quoi, entre les deux grosses montagnes.
Ouais. Cyril le disait ce matin chez Jean-Jacques Bourdin. La différence par rapport aux années précédentes, c'est que le peu de contre-la-montre, Cyril, en fait, va faire que les grands favoris vont être obligés de se lâcher dans la montagne pour essayer de faire des écarts. Ils vont être obligés de passer à l'offensive et ce, peut-être dès les premières étapes ou même avant l'arrivée en montagne.
Oui, tout à fait, puisque le contre-la-montre permet à certains coureurs dans le cadre du contrôle de la course, hein, du contrôle des autres favoris. Ils connaissent leur valeur sur l'épreuve de vérité. Ils savent combien ils vont perdre à peu près, combien ils vont pouvoir gagner sur un tel ou sur tel autre. Là, pour aller gagner le tour, eh bien, il faudra faire la différence dans les ascensions, dans les arrivées au sommet, on va dire dans l'ensemble des grandes étapes de montagne, puisque on a affaire quand même à que des grimpeurs et à aucun grand spécialiste du contre-la-montre quand on parle des quatre favoris et non pas des quatre fantastiques. Ils seront fantastiques quand on verra quand ils auront fini, mais qu'on les appelle fantastiques avant de partir, moi j'aime pas trop.
Il y a quand même trois anciens vainqueurs du Tour et un vainqueur du Giro.
Non, mais on est fantastique à la fin, on n'est pas fantastique avant.
Non, mais ils ont quand même été fantastiques précédemment dans les autres Tours de France.
Pas tous peut-être.
C'est rare quand même d'avoir au départ du Tour trois anciens vainqueurs.
Non, mais je parle des favoris. C'est pas parce que vous l'avez gagné que vous allez le regagner.
Oui.
Bon, donc les fantastiques.
Tu penses que le vainqueur ne se trouve pas dans les quatre?
Il a jamais gagné. Il fait partie des fantastiques.
Le vainqueur, pour moi, se trouve dans les quatre.
Ah.
Mais lequel?
Ah, c'est toute la question.
C'est toute la question. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Mais c'est vrai que il va falloir être très attentif dans l'étape, non pas celle de demain, mais après-demain, puisque nous arrivons en pleine mer. Donc sortez le grand spi, peut-être. Et puis vous avez l'arrivée à 8. Il faut pas se rater au pied, sinon vous allez perdre 15 ou 20 secondes.
C'est
15 ou 20 secondes, vous n'avez pas de contre-la-montre qui vous permettra de les reprendre. Ensuite, vous allez avoir le passage des pavés. Quand on a vu la tête de Contador l'an dernier sur les quelques pavés qui ont été passés,
c'était sous la pluie,
la
aussi,
façon dont il était emprunté sur ce parcours, on se dit que Contador peut également reperdre un petit peu de temps. Donc il va falloir se battre tous les jours pour ne pas perdre de temps. C'est pas pour essayer d'en gagner, mais pour ne pas en perdre. Et puis il y a le contre-la-montre par équipe qui va avoir une incidence, à mon avis, une incidence prépondérante, sachant que ces quatre favoris ont également quatre équipes qui sont surpuissantes pour ce type d'épreuve, mais on finit dans l'eau de la côte de Cadoudal et il faut être 5.
Et ça, évidemment, ça sera une autre paire de manches. On aura l'occasion d'en reparler. Messieurs, on va continuer d'évoquer le parcours dans un instant. On va parler des favoris. On va parler de ces Français qui nous font saliver d'avance, qui vont peut-être succéder à Bernard Hinault 30 ans après. Lucho, tu y crois, évidemment. Hein, tu y crois?
Oui, on peut toujours y croire.
On peut toujours y croire.
Ah, c'est pas très net, hein.
On accueillera Nicolas dans un instant, juste après les infos 17h. Et quelle heure? Il est déjà 16h55. C'est déjà la fin de la première heure de l'intégrale Tour de France. Mais il y en aura d'autres d'ici le 26 juillet, rassurez-vous. Et une dès après les infos de 17h. On se retrouve tout à l'heure. Donc, pour parler des favoris de cette édition 2015 de la Grande Boucle. À tout à l'heure.
RMC, Intégrale Tour.